Bonsoir.
J'ai, pour vous expliquer très très succinctement, j'étais dans un moment de prière il y a 3 semaines dans ma voiture et je priais, je louais, j'allais à Tours et il y a ce thème qui m'est venu, ne retourne pas en Égypte. Et d'habitude, je fais une note vocale pour me souvenir du thème parce que je me dis ça c'est pour la prochaine étude biblique. Et là, j'ai loupé le coche, j'ai oublié de prendre en note. 2 jours plus tard, me voilà reparti dans ma voiture et je me dis, mince, j'avais un super thème. En plus, comme je les aime, énigmatique, on ne sait pas trop vers quoi ça tend et tout ça. Et impossible de remettre la main dessus. Je cherche une demi-heure, 40 minutes, impossible. Je me dis, Seigneur, si c'est ta volonté que je l'apporte à la prochaine étude biblique, alors tu sauras me le rappeler. 2 minutes plus tard, me voilà avec mon thème « Ne retourne pas en Égypte ». Donc j'ai ma confirmation, donc je vais vous apporter ce thème aujourd'hui. Ce thème m'est venu, je me suis dit « c'est bien, c'est énigmatique », mais en réalité c'est aussi le fruit d'une réalité biblique. On le retrouve dans Deutéronome au chapitre 17, au verset 16, « Vous ne retournerez plus par ce chemin-là ». Ce sont les mots que Dieu communiquera à Moïse à destination de son peuple en parlant de l'Égypte. Le peuple était appelé à ne plus jamais reprendre ce chemin qui mène en terre égyptienne. Alors avant de discuter de cette recommandation de Dieu, il me semble assez essentiel de reprendre de quelle manière l'histoire d'Israël a eu tendance à s'imbriquer avec l'histoire de l'Égypte. Donc, il y a un élément à saisir avant toute chose, c'est que l'Égypte a une place très importante dans la Bible. Elle y est mentionnée près de 700 fois, ce qui en fait le 3e lieu géographique le plus mentionné de la Bible, après Israël, 2000 fois, et Jérusalem, 800 fois. Si on voulait résumer la chose, on dirait que l'Égypte, c'est l'autre terre biblique. Son rôle, il apparaît quand même relativement ambigu en première lecture. Tantôt, c'est un lieu de refuge, de secours, de salut. Tantôt, c'est un lieu de persécution, d'esclavage, de souffrance. C'est pour ça que je l'ai résumé de cette façon. C'est une terre entre hospitalité et persécution. Son nom hébreu, Misraïm, peut être traduit par « terre de dépression ». Et il porte en son sein la racine « tsr », T-S-R, qui renvoie à l'amertume, la détresse, l'inimitié. La première fois que la Bible y fait mention, c'est dans Genèse 12, passage dans lequel il est dit que Abraham, alors simplement Abraham, alors qu'il est en terre de Canaan, il subit une famine et il va prendre donc la décision de se rendre en Égypte avec sa femme Sarah. L'Égypte apparaît ici comme une terre de refuge. D'autant plus quand on sait comment Abraham va être accueilli, à quel point il va y prospérer. On le voit, bon, voilà, je vous ai mis une petite image d'Abraham et Sarah en Égypte, on le voit dans Genèse 12, on a une situation dans laquelle donc Abraham se retrouve contraint d'aller en Égypte, mais la sécurité qui semble recherchée est assez relative. On le voit au verset 11 à 13, « Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Donc, lieu de sécurité, lieu très certainement d'abondance pour fuir la famine, mais en même temps, sécurité relative, on n'est pas fou, on a l'impression que, en tout cas, Abraham a le sentiment qu'il risque quand même un petit peu sa peau s'il dit que sa femme est sa femme. Donc, conscient qu'il risquait sa vie, il va préférer mentir, ou en tout cas, délibérément omettre de dire toute la vérité, ce qui est un mensonge, en affirmant qu'elle n'était que sa sœur. C'est vrai, elle était sa sœur, elle était surtout sa femme. Ce mensonge, il lui a été profitable puisqu'il va conserver la vie et il va être très bien traité, il va même s'enrichir parce que les Égyptiens vont chercher à l'honorer pour que Pharaon puisse avoir les bonnes grâces de Sarah, présentée comme la sœur. Sarah, elle, va avoir un destin un peu plus compliqué puisqu'elle va être emmenée dans le harem de Pharaon. C'est ce qu'on voit dans Genèse 12, verset 15. Si je devais trouver un titre à ce passage, ce serait « Un manque de foi, point d'interrogation ». Pourquoi ? Il me semble que dans cet épisode, Abraham va manquer 2 fois de foi. Déjà, il va aller en Égypte pour fuir la famine, mais il n'est pas dit qu'Abraham va consulter Dieu. Au début du chapitre, il est dit que Dieu l'appelle à quitter le pays de son père, Charan, et qu'il est appelé à rejoindre le pays que Dieu va lui montrer, la terre qui se veut, la terre promise. Voilà à peu près le chemin que va faire Abraham d'abord avec son père. Il va partir de Ur et il va aller dans cette région qui est Haran. Et puis Dieu va se révéler à lui, va lui demander de quitter toute sa famille, tout ce qu'il connaît, et de venir en réalité en terre de Canaan. Et de cette terre de Canaan, d'où il vit la famine, Abraham va choisir avec Sarah de partir en Égypte. Donc, on voit que l'Éternel l'appelle à partir de Haran ou de Charan, en fonction des appellations, et il désigne clairement le pays de Canaan comme celui où Abraham et sa famille sont appelés à s'établir. Pourtant, au verset 10, il est simplement indiqué « Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner ». On a le sentiment qu'Abraham prend la décision tout seul. Il y a Dieu pendant les 9 premiers versets, et le 10e, il prend sa décision compte tenu de la famine qu'il est en train de vivre. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'Égypte présente toutes les caractéristiques de la sécurité, du refuge tant désiré, Abraham a conscience qu'il s'expose à un danger et préfère mentir sur cette situation maritale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on se rend compte que la solution va être pire que le mal, puisqu'il faudra véritablement une intervention de Dieu pour que le couple s'en sorte sain et sauf. C'est la première fois qu'il est fait mention de l'Égypte dans la Bible. Une terre qui semble offrir abondance, sécurité, mais qui n'en a que les apparences. Ce pays sera une nouvelle fois cité dans le récit biblique, dans Genèse au chapitre 37, quand Joseph, fils de Jacob, petit-fils d'Isaac, arrière-petit-fils d'Abraham, voyez la généalogie, quand Joseph est victime de la jalousie de ses frères qui le vendent à des marchands ismaélites qui le feront esclave en Égypte. Et si on se souvient tous de la grâce de Dieu qui va être faite à Joseph, qui va prospérer, devenir premier ministre de Pharaon, il ne faut quand même pas oublier quel va être son parcours. Il va être esclave, puis être prisonnier après avoir été faussement accusé par la femme de son maître d'avoir tenté d'abuser d'elle. L'Égypte se révèle donc être une terre de déracinement, d'esclavage pour Joseph. Et ça n'est que par une intervention de Dieu que le mal sera changé en bien. Mais factuellement, l'Égypte n'est pas la terre salutaire pour Joseph sans Dieu. Finalement, dans toute l'histoire du peuple hébreu, il n'est fait en mention qu'à une seule reprise de l'Égypte comme une destination voulue par Dieu. C'est ce qu'on voit dans Genèse 46, alors que Joseph est donc à la tête du gouvernement égyptien. Il a grandi, gagné en maturité, il a obtenu les faveurs de Pharaon, il est devenu le premier homme d'Égypte et il prépare le pays à l'arrivée d'une famine. Et là, on a Dieu qui se révèle à Jacob, donc le père de Joseph, qui pense son fils mort et qui vient lui dire que d'une part, son fils est bien vivant, d'autre part, qu'il est appelé à prendre toute sa famille et à venir en Égypte pour se sauver de la famine. Dieu va donc faire entrer en Égypte la famille de Joseph, soit 70 personnes, si on en croit les Écritures, et Dieu va se servir de cette terre étrangère pour témoigner de sa fidélité. Il va accomplir une promesse qu'il a mise dans le cœur d'Abraham, une promesse qu'il réitérera pour Isaac et pour Jacob, c'est faire d'eux une grande nation. Après quelques décennies de prospérité, Joseph meurt et un nouveau pharaon arrive au pouvoir, et là s'inaugurent les premières persécutions. Pourtant, c'est dans ce contexte difficile que la famille de Jacob va se multiplier, alors même qu'elle est réduite en esclavage. C'est pendant ce temps d'oppression que le peuple va gagner en nombre et on va passer de 70 personnes à 430 ans plus tard, 600 000 personnes. 600 000 personnes dans les décomptes qui sont faits selon la Bible, mais qui ne comptabilisent que les hommes. Donc sans comptabiliser les femmes et les enfants. Selon les commentateurs, on serait davantage autour de 2 à 3 millions de personnes. Donc d'une famille élargie, 70 personnes, et dans un contexte extrêmement difficile, on arrive à un petit pays. Dieu s'est doublement servi de cette épreuve. Accomplir sa promesse en faisant de la descendance de Jacob une nation nombreuse, mais surtout témoigner de sa fidélité et de sa bonté. L'idée qu'il cherche ici à transmettre au travers de cette période sombre de l'histoire du peuple hébreu, c'est qu'il est le seul sur qui on peut réellement compter. Les autorités humaines, à commencer par l'Égypte, sont faillibles, la sécurité matérielle, on ne peut pas véritablement compter dessus. Elle ne garantit en rien la paix, la liberté, le salut que seul Dieu est en capacité d'offrir. Voilà l'enseignement que Dieu veut graver dans le cœur de ce qui va devenir son peuple et qui commence par une famille. Alors au terme de ces 430 ans d'exil en terre égyptienne, pays qui se proposait comme une terre de salut, de paix, d'abondance, et qui s'est en réalité avéré un lieu d'esclavage, de souffrance, Dieu va appeler Moïse par qui il va libérer son peuple. Il ne faudra pas moins de 10 plaies, pour ceux qui se rappellent du récit, il ne faudra pas moins de 10 plaies pour faire entendre raison à Pharaon, et puis il faudra en plus une intervention miraculeuse de Dieu pour que les Hébreux soient délivrés de l'armée égyptienne qui les poursuivait. Et cette libération est à de multiples reprises présentée dans la Bible comme le signe d'une alliance qui a été passée entre Dieu et son peuple. Par cette délivrance, Dieu a contracté une alliance avec son peuple. Et donc c'est dans ce contexte-là que cette parole de Deutéronome 17, par laquelle j'ai commencé mon propos, sera donnée par Dieu à Moïse alors que le peuple s'apprête à rentrer en terre promise après 40 ans dans le désert. Par sa désobéissance, le peuple a tourné en rond, ce qui aurait dû se faire entre 10 et 12 jours, s'est révélé être 40 années à tourner en rond, une génération est passée, et ils sont aux portes de la terre promise. Et voilà ce qui nous est dit dans Deutéronome 17, je prends un tout petit peu plus large que le petit verset que j'ai pris tout à l'heure. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux et qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit « Vous ne retournerez plus par ce chemin-là. » qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. » Par cette parole, Dieu ordonne à son peuple et au souverain qui sera amené à réclamer lorsqu'il sera établi en terre promise, de ne jamais se donner à un étranger, de ne jamais chercher à retourner d'où ils ont été libérés, l'Égypte. Ce pays, celui de l'esclavage, devient une terre interdite pour le peuple. Et pourtant, tout au long de son histoire, le peuple n'a cessé de transgresser cette règle. Et il sera amené à en subir les conséquences de sa désobéissance et surtout les conséquences de son manque de confiance en Dieu. Parce que comme on va le voir, à chaque fois que le peuple a renoué des alliances avec l'Égypte, ça s'est toujours passé lors d'une situation compliquée et qui résultait d'un manque de confiance en lui. Ça a été le cas, j'ai répertorié 2-3 événements, ça a été le cas du mariage de Salomon avec une princesse égyptienne dans 1 Roi au chapitre 3. 1 Roi au chapitre 3, verset 1, il nous est dit « Salomon s'allia avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. » Alors ce verset, il peut paraître relativement anecdotique. Oui, effectivement, il s'est marié avec la princesse égyptienne avec la fille de Pharaon. Mais il trouve un écho particulier quand on va un petit peu plus loin dans 1 Roi 11. Il n'est pas nécessaire de lire l'entièreté du passage pour comprendre de quoi il est question. On nous dit que le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Il eut 700 femmes, 300 concubines. Et alors même qu'il avait été dit qu'il était important de ne pas s'attacher à beaucoup de femmes, ici, il nous est dit que les femmes inclinèrent le cœur de Salomon dans les jours de sa vieillesse vers d'autres dieux et que son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu. Son alliance avec Pharaon, au travers de ce mariage avec sa fille, n'a été en réalité que la première alliance et le premier mariage d'une longue liste. En outre, qui dit mariage avec une princesse étrangère, souvent aux fins d'une alliance politique et militaire, dit souvent alliance avec d'autres dieux. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce qu'on vient de lire concernant Deutéronome 17. Est-ce que vous vous souvenez les 3 recommandations, ou du tout moins les 3 commandements que Dieu donne au peuple d'Israël dans Deutéronome 17 ? Comment ? Pas trop d'or, pas trop de femmes et pas trop de chevaux. Salomon va transgresser l'ensemble de ses consignes. Déjà, il eut un nombre extraordinaire de chevaux Et la Bible est riche en détails puisqu'on nous le dit que c'est de par sa relation avec l'Égypte et Pharaon. 1 Roi 4, 26, Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux destinées à ses chars et 12 000 cavaliers. 1 Roi 10, 28, c'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Il eut 700 femmes et 300 concubines. Je ne sais pas si vous, vous trouvez que ça fait beaucoup de femmes, mais moi, j'ai tendance à penser que oui. Et on nous dit qu'il accumula des richesses d'une importance considérable. 1 Roi 10, 23, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. 1 Roi 10, 27, le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. 1 Roi 10, 14, le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Quand on sait que le nombre 666 est associé dans l'Apocalypse au chiffre de la bête, moi, ça me laisse quand même un petit peu songeur sur ce qui animait Salomon au travers de l'accumulation de ses richesses. Ça m'est personnel, mais je trouve qu'il y a une symbolique qui mérite en tout cas d'être soulevée. Le message de Dieu dans Deutéronome 17 était clair. Si vous suivez l'Éternel, vous n'aurez pas besoin de développer votre cavalerie. Vous n'aurez pas besoin de développer votre cavalerie, d'accumuler des chevaux en nouant une relation privilégiée avec ceux qui vous ont opprimé pendant tant d'années. Vous n'aurez pas besoin de nouer des alliances politiques avec d'autres nations. Vous ne prendrez pas le risque de vous détourner de Dieu en vous alliant avec des femmes étrangères et en adoptant leur culte. La consigne qui est donnée ici, c'est ne cherchez pas la sécurité humaine, mais reposez-vous sur Dieu en qui vous avez paix et liberté. Soyez indépendant des autres nations et dépendant de Dieu. C'est à l'ensemble de ces principes que Salomon a dérogé et le peuple en a payé les conséquences. Première conséquence, la division du royaume d'Israël avec un royaume du nord et un royaume du sud, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et on va voir après que les alliances vont se multiplier avec l'Égypte, avec toujours son lot de conséquences. C'est le cas de Osée, roi d'Israël, qui va nouer une alliance avec l'Égypte pour résister à l'Assyrie dans 2 Rois 17. Là encore, cette alliance, elle témoigne d'un manque de confiance en Dieu. La Syrie était un peuple extrêmement nombreux, avec une puissance militaire qui était relativement terrible, mais le peuple ne se tourne pas vers Dieu, il en appelle à ses anciens oppresseurs, et c'est ce qui aura raison du royaume d'Israël. Et puis, on a la même chose avec le royaume de Juda, puisque Ézéchias va chercher à nouer une alliance avec l'Égypte pour résister lui aussi à la Syrie. Là, Dieu va être plus clément parce que Ézéchias va reconnaître son erreur, mais la suite, ce sera une succession de dominations égyptiennes sur Juda, et ça sera la conséquence de sa désobéissance. Au cours des années, il y a un certain nombre d'événements qui vont montrer que Juda est véritablement soumis à l'Égypte. Le roi Josias va être tué par Pharaon Nécho II dans 2 Rois 23-29, et c'est le Pharaon qui décidera du nouveau roi qu'il instituera à sa place. Et puis on voit que Juda va se retrouver à payer un tribut à l'Égypte et qui va lui être assujetti. Et puis quand enfin Nebuchadnezzar, qui est le roi de Babylone, une nouvelle puissance émergente qui va vaincre tous les voisins, on va voir que Sédésias, qui est le dernier roi de Juda, va lui aussi tenter de s'allier une dernière fois avec l'Égypte pour se révolter contre Babylone, et ça aura raison une fois encore, du royaume de Juda. Et les troupes babyloniennes vont détruire la ville de Jérusalem. Et les prophètes avaient été pourtant extrêmement clairs concernant toutes ces questions. Ézéchiel va décrire ces événements de la façon suivante. « Voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem. Il en a pris le roi et les chefs et les a emmenés avec lui à Babylone. Il a choisi un membre de la race royale, a traité alliance avec lui et lui a fait prêter serment. Et il a emmené les grands du pays afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement, sans pouvoir s'élever, et qu'il garda son alliance en y demeurant fidèle. Mais il s'est révolté contre lui en envoyant ses messagers en Égypte pour qu'elle lui donnât des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui a fait de telles choses réussira-t-il? Échappera-t-il? Il a rompu l'alliance et il échapperait. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. C'est dans le pays du roi qu'il l'a fait régner, envers qui il a violé son serment et dont il a rompu l'alliance. C'est près de lui, au milieu de Babylone, qu'il mourra. Pharaon n'ira pas avec une grande armée et un peuple nombreux le secourir pendant la guerre, lorsqu'on élèvera des terrasses et qu'on fera des retranchements pour exterminer une multitude d'âmes. Il a méprisé le serment, il a rompu l'alliance, il avait donné sa main et il a fait tout cela, il n'échappera pas. Là, on voit quand même que les mots du Seigneur sont extrêmement forts. Une consigne avait été donnée, ne vous rapprochez pas de l'Égypte, ne cherchez pas à obtenir des cavaliers, des chevaux de leur part, parce que c'est une terre qui se veut interdite, une terre de laquelle je vous ai sauvé, de laquelle je vous ai extirpé. Et pourtant, à partir du moment où ils estiment qu'ils sont victimes d'une menace plus grande, ils se tournent non pas vers Dieu, mais vers l'Égypte. Alors ces alliances avec l'Égypte au fil des siècles se révèlent être la traduction d'un mal profond. Le peuple ne fait pas suffisamment confiance à Dieu et préfère se tourner vers ses anciens oppresseurs, vers ses anciens maîtres, quitte à rompre l'alliance qui a été nouée entre l'Éternel et leurs ancêtres au temps de l'Exode. Ils pensent que leur source de salut en période difficile viendra davantage de l'Égypte que de Dieu, et c'est là en réalité que réside le problème. Ce n'est pourtant, et c'est ce que je disais, pas faute d'avoir été prévenu. Ésaïe lui-même avait soulevé la problématique en disant « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. L'Égyptien est homme et non Dieu, ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous ensemble ils périront. » Tout cela s'est réalisé. Dieu a utilisé Babylone et Nebuchadnezzar pour accomplir cette promesse qu'il avait prononcée au travers de la bouche d'Ésaïe. Et là, je me dis encore, comment ne pas y voir un lien avec Deutéronome 17, avec cette parole qui a été délivrée par Moïse, qui n'est pas un grand nombre de chevaux, qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Alors, tous ces rapprochements politiques, économiques, militaires avec l'Égypte apparaissent en opposition flagrante avec cet ordre de Dieu. Dieu leur a montré que compter sur les hommes les conduisait à leur perte, que la sécurité humaine était faillible, que l'Égypte, qui se présentait comme une terre de refuge, n'en avait que les apparences, était en réalité un pays où on se voyait privé de liberté, et pourtant, ça ne les a pas empêchés de retomber dans les mêmes erreurs. Et même après la chute de Juda, on peut se dire, bon, la chute de Juda, les paroles des prophètes sont peut-être suffisantes pour comprendre que là, on a été dans l'erreur. Même après la chute de Juda, alors que une grande partie du peuple a été emmenée en déportation, et qu'il ne reste finalement que les personnes les plus pauvres sur Juda, là encore, le peuple, le reste du peuple du moins, va s'approcher de Jérémie et va lui demander une direction de la part du Seigneur. Le Seigneur va être très clair. Si vous restez dans ce pays, en terre de Juda, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, vous y mourrez. Vous lirez l'entièreté du passage, mais le Seigneur leur promet la famine, le fait de mourir par l'épée, et nul n'échappera, ne fuira. Le message, il est clair, le message, il est limpide. Est-ce que le reste de Juda va l'entendre ? Non. Ils vont dire à Jérémie qu'il dit un mensonge, que Dieu ne l'a pas chargé de dire ça, et ils disent qu'ils iront en Égypte. Ils n'obéirent pas à Dieu, se rendirent en Égypte, et l'Éternel accomplit sa parole. Voilà ce qui nous est dit un petit peu plus loin dans Jérémie 44. « Je prendrai les restes de Juda qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés. Ils tomberont dans le pays d'Égypte. Nul n'échappera, ne fuira parmi les restes de Juda. » qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte. Donc on voit quand même que c'est la grande réjouissance de vivre en terre égyptienne et de chercher à nouer des alliances en terre égyptienne. Mais alors, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ce « ne retournez pas en Égypte » ? On a vu cette relation Israël-Égypte. Pourquoi ne pas retourner en Égypte ? On l'a dit tout à l'heure, l'Égypte, c'est les apparences d'un refuge sûr. Et pourtant, ça s'est toujours révélé être un lieu de privation de liberté. On y vient en période de famine, quand on est affaibli, quand on a faim, quand on fuit un danger, et on ne peut pas en partir sans une intervention de Dieu. Sarah y fut séquestrée par Pharaon dans son harem. Joseph y fut vendu et y passa le reste de sa vie. Le peuple hébreu y resta 430 ans en tant qu'esclave. Toutes les alliances d'Israël et de Juda avec Pharaon conduisir à une forme d'assujettissement politique, militaire et spirituel. Quand on y regarde de plus près, l'épisode que vont vivre Abraham et Sarah, dont j'ai parlé tout à l'heure dans Genèse 12, s'annonce à mon sens comme une préfiguration de ce que va vivre le peuple hébreu 2 siècles plus tard. Pourquoi est-ce que je parle de préfiguration ? On est dans le même contexte, un contexte de famine. Abraham va conduire Sarah en Égypte, sa femme d'une très belle apparence, qui attire la convoitise des Égyptiens. Et Pharaon va la retenir captive de par cette beauté qui va l'attirer jusqu'à ce que Dieu intervienne. Deuxième passage, là cette fois-ci au temps de l'Exode. Dans un contexte de famine, Dieu conduit son peuple en Égypte, peuple qui se révèle être indispensable, oserais-je le dire, un peuple qui se veut attirant pour Pharaon, qui les prive de leur liberté et les empêche de quitter le pays jusqu'à ce que Dieu intervienne. Et je me dis que de la même façon que Sarah, femme du projet divin, celle sans laquelle Abraham n'aurait pas eu de postérité, sans qui il n'y aurait pas d'accomplissement de la promesse de faire de lui une grande nation, fut séquestrée en Égypte et échappera de peu à la prostitution avec Pharaon. De la même façon, la famille de Jacob, descendance d'Abraham, famille de la promesse, fut retenue en Égypte et adopta des pratiques assimilées par Dieu à de la prostitution. On notera d'ailleurs un enseignement commun à ces deux histoires. On ne sort jamais indemne de l'Égypte. Si beaucoup de commentateurs pensent que Sarah n'a pas eu à se compromettre et n'a pas eu à coucher avec Pharaon par la grâce de Dieu, il n'en reste pas moins que le couple, Abraham et Sarah, ne sort pas indemne de ce voyage. Il y a tout lieu de croire qu'ils repartent avec quelque chose, ou du moins quelqu'un, quand ils repartent dans leur bagage, ils repartent avec quelqu'un. Est-ce que vous savez qui c'est ? Comment ? Agar. Ah oui, c'est noté ? Bon, vous l'auriez trouvé. Agar, une servante égyptienne avec laquelle Abraham va coucher, pensant réaliser la promesse de Dieu et qui donnera naissance à Ismaël, père des Ismaélites, père des tribus arabes, qui deviendront les ennemis de la descendance de son demi-frère Isaac, les ennemis d'Israël. Abraham va donc se compromettre avec l'Égypte et il va en être un des plus grands adversaires de sa descendance. De la même façon, si le peuple sort d'Égypte dans l'Exode par la grâce de Dieu, il n'en sort pas indemne. Il en revient avec dans son cœur un sentiment d'appartenance encore très marqué pour son ancien maître, un attachement toxique, pourrait-on dire. Et à plusieurs reprises dans le récit de l'Exode, il en est question. Ça commence avec Exode 14. On est avant même que le peuple soit sorti du territoire égyptien, où le peuple va se plaindre en disant que est-ce qu'il n'y avait pas finalement déjà des tombes en Égypte pour y mourir ? Nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. 2 chapitres après, le peuple a faim au désert et est en train d'idéaliser son passé en Égypte. Et il parle des pots de viande qu'ils avaient à disposition quand eux mangeaient du pain à satiété. Donc on voit, encore une fois, dès qu'on est dans un contexte d'épreuve, on en revient à ce souvenir idéalisé de l'Égypte. On le voit aussi 40 ans après dans le désert, aux portes de la terre promise, après que les espions évoquèrent des géants qui habitaient le pays à conquérir la terre de Canaan. On le voit dans Nombre, chapitre 14, verset 4. « Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? Nommons un chef et retournons en Égypte. » Et puis, on le voit dans Exode 32, lorsque Moïse se rend sur le mont Sinaï pour y rencontrer Dieu, qui tarde à en revenir. Est-ce que vous vous souvenez ce qui suit cet épisode ? Le veau d'or. Pourquoi est-ce que j'estime que c'est un retour en Égypte, le veau d'or ? Parce que c'est l'adoration d'un idole à l'apparence animale fait de main d'homme. Pour moi, c'est un retour spirituel en Égypte. Ils tendent à retourner à un culte, à une pratique antérieure. J'en viens à la conclusion qu'on ne sort jamais indemne de l'Égypte. Abraham va coucher avec ce que j'appelle un souvenir, Agar, je l'estime un souvenir, de son voyage en Égypte, duquel fut enfanté un adversaire de la maison d'Israël. Le peuple hébreu n'eut de cesse de se complaire, de coucher avec un souvenir idéalisé et nostalgique de l'Égypte, duquel fut enfanté un goût pour la désobéissance, pour l'idolâtrie et pour le manque de foi. Ça rejoint ce que Dieu dira à Samarie et à Jérusalem dans Ézéchiel 23. Elles se sont prostituées en Égypte dans leur jeunesse. Elles se sont souillées avec toutes leurs idoles. Elles n'ont pas renoncé à leur prostitution et pour cette raison, l'une comme l'autre tomberont entre les mains de ceux avec qui elles se sont prostituées. On ne ressort pas indemne d'un voyage en Égypte. Aussi, Dieu met en garde contre toute tentation de retourner vers le lieu d'où il l'a délivré. Ne pas y retourner, ni physiquement, ni moralement, ni spirituellement. Alors, quel est l'enseignement spirituel pour nous aujourd'hui ? L'Égypte, c'est la sécurité humaine indépendante de Dieu. C'est le refuge séduisant mais trompeur. C'est le monde opposé à Dieu. C'est un lieu d'esclavage, de servitude au péché. Je me suis longuement interrogé de savoir ce qu'on pouvait être amené à vivre et qui pourrait tendre à ce souvenir égyptien, à cette Égypte. Je me suis dit que l'Égypte, ça peut être ce faux sentiment de sécurité financière et matérielle. Ce semblant de sécurité qui naît en nous quand on a un emploi stable, quand on a de l'argent de côté, quand on a un confort de vie, et qui nous pousse inconsciemment à ne plus nous reposer totalement sur Dieu, parce qu'on pense pouvoir assumer en cas de coup dur. C'est insidieux. On ne dira généralement pas « je n'ai pas besoin de Dieu dans tel aspect de ma vie », mais c'est quand même plus ou moins l'idée qu'on risque de vivre et vers laquelle on risque de glisser progressivement. L'Égypte, c'est peut-être aussi ce monde qu'on a été amené à quitter quand on a commencé notre marche avec Dieu. C'est peut-être des endroits, des personnes qu'on fréquentait. Et malgré le fait que tout ça n'apportait pas de joie, et généralement on arrive à le discerner, peut-être que parfois on se surprend à y penser avec nostalgie, peut-être parfois avec un peu d'envie. C'est peut-être aussi cette manière de faire qu'on avait avant, ou dans laquelle on a quand même du mal à s'extirper. Le fait, par exemple, de mentir dans une situation pour se sortir d'une situation complexe. Le fait de penser d'abord à soi avant de penser aux autres, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus confortable parfois. Et puis, ça peut être aussi ce péché auquel on était attaché, duquel Dieu nous a délivré. Une addiction dans laquelle on arrive difficilement à se dépêtrer parce qu'elle ne cesse de se rappeler à nous. C'est peut-être aussi une relation toxique dans laquelle on ne cesse de retourner, alors même qu'elle nous détruit. L'Égypte, c'est véritablement un lieu d'esclavage auquel on est parfois encore attaché et qui cherche à nous éloigner de Dieu. Je pense qu'il est important de garder une réalité au fond de notre cœur. De la même façon qu'Abraham, Sarah et leurs descendants ont été conduits hors d'Égypte par Dieu, de la même façon nous avons été libérés de l'esclavage du péché par Jésus. Nous avons été extirpés de notre situation ancienne et appelés à vivre notre pleine liberté en lui. Et c'est d'ailleurs pour témoigner prophétiquement de cette œuvre de délivrance que Jésus descendit enfant en Égypte. Le passage, il est très court. Matthieu 2, versets 13 à 15. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Généralement, quand on lit les évangiles, on passe très rapidement là-dessus. Pourtant, il y a derrière ce passage toute une symbolique. Matthieu applique Osée, chapitre 11, verset 1, à Jésus. Osée, chapitre 11, verset 1, nous dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Jésus, comme Israël, a été appelé à descendre en Égypte et à en sortir, signe que la fidélité et la miséricorde de Dieu n'ont pas de limite. Par cette descente et cette remontée d'Égypte, Jésus est venu annoncer l'accomplissement d'une délivrance bien plus grande encore que celle qui a bénéficié aux Hébreux plusieurs siècles auparavant. Une délivrance qui se veut totale de toute forme de domination, une liberté pleine et entière offerte à l'ensemble de l'humanité. De la même façon que Dieu va utiliser Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte, Dieu utilisera Jésus pour libérer l'humanité du péché. C'est Ésaïe 49 qui parle prophétiquement de Jésus, qui en témoigne. Jésus est désigné comme le serviteur parfait, celui qui est appelé Israël, celui en qui l'Éternel se glorifie. Il est Israël, celui qui lutte et qui triomphe avec Dieu. C'est ce que signifie le mot Israël. Il est établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il est cet Israël qui a été appelé à descendre et à remonter d'Égypte. Et par cette petite mention dans Matthieu 2, on s'aperçoit de toute la portée spirituelle de ce séjour en Égypte. L'annonce d'une liberté pleine et entière amené par le serviteur parfait. Nous avons donc une pleine liberté en Jésus. Il nous a fait quitter notre Égypte et nous sommes appelés à veiller à une chose, ne pas y retourner. Je pense que si nous retournons en Égypte, métaphoriquement évidemment, spirituellement, si nous retournons dans notre Égypte, notre situation pourrait devenir pire que la première. Et ça me fait penser à ce que Jésus dira dans Matthieu 12. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Jésus enseigne dans ce passage qu'il ne suffit pas d'être délivré du mal. Il ne suffit pas de corriger certains comportements extérieurs. À travers l'image d'une maison vide, balayée, ornée, il montre qu'une vie simplement nettoyée, mais qui n'est pas remplie par la présence de Dieu, demeure vulnérable. L'esprit impur revient avec d'autres esprits plus mauvais encore, et la situation finale devient pire que la première. Le message, c'est donc celui d'un appel à une véritable transformation, qui ne consiste pas seulement à se débarrasser du péché, mais à laisser Dieu habiter et régner dans notre vie. Et je pense que c'est ce qui a véritablement constamment manqué au peuple hébreu tout au long de l'Ancien Testament. C'est ce qui explique cette tendance à retomber dans les travers du passé, à reprendre l'idolâtrie, à se rapprocher continuellement de ce qui fut l'ennemi, l'Égypte. Alors, veillons constamment à nous abreuver à la source, à nous approcher de Dieu, à l'appeler à habiter en nous. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on a donné une fois notre vie à Dieu, qu'on est passé par les eaux du baptême, qu'on est à l'abri de tous les pièges spirituels. Nous ne serons en mesure d'éviter ces pièges et d'éviter de retomber dans notre vie de nature qu'en gardant constamment notre regard sur Dieu. Toutes les fois où nous le mettrons de côté, consciemment ou inconsciemment, alors on dirigera notre regard en réalité vers l'Égypte. On dirigera notre regard vers le manque de foi, la désobéissance, l'idolâtrie, le péché. Je pense que l'être humain a la mémoire courte et qu'il a une propension à idéaliser le passé, à se rappeler de cette terre, de ce moment, de cette situation dans laquelle il était et qui se présentait comme ayant les apparences de la sécurité et de l'abondance. Alors veillons véritablement à notre état de cœur, à ce à quoi nous aspirons, et je pense qu'il en va véritablement de notre relation avec Dieu et de notre vie spirituelle. En conclusion, je pense qu'on a là un avertissement qu'il ne faut pas négliger. Ne retournons pas en Égypte. Et le mieux pour garder cette consigne en tête, c'est de se dire que nous n'avons rien perdu. Tout ce qui était de notre passé, nous ne l'avons pas perdu, nous en avons été libérés. Libérés du monde dans lequel nous évoluions, libérés de notre ancienne façon de penser, d'agir, libérés de notre péché. Et c'est une grâce qu'on doit passer, repasser constamment sur notre cœur, de peur de se la voir transformée, un petit peu comme le peuple hébreu, en tristesse, en nostalgie, en regret, voire en plainte. Parce que d'abord, heureux d'avoir retrouvé sa liberté, le peuple hébreu est rapidement tombé dans la nostalgie de son passé égyptien. Et j'ai l'impression qu'on retrouve la même idée dans Genèse au chapitre 18, quand Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Ces deux villes, symboles d'une abomination, symboles d'une idolâtrie, symboles d'un orgueil démesuré, Dieu va décider de les détruire. Il va appeler deux anges pour venir sauver Lot, le neveu d'Abraham et sa famille. Et ces derniers vont être obligés de le traîner hors de la ville tellement elle exerce un pouvoir d'attraction sur lui. On a le sentiment que Lot est tellement attaché aux choses de cette ville qu'il est prêt à y mourir, à se laisser consumer avec elle. Et puis ça, c'est sans compter sa femme. La femme de Lot, vous vous souvenez La consigne, elle est claire. Vous partirez, vous fuirez loin de la ville et vous ne vous retournerez pas. Elle va se retourner avec un regard très certainement plein de regrets, plein de mélancolie. Elle part physiquement, mais son cœur reste à Sodome et Gomorrhe et elle sera transformée en statue de sel. L'un tarde à partir de cette ville abominable et doit être traîné dehors pour ne pas être consumé, et l'autre regarde en derrière avec convoitise. Son cœur reste à Sodome et elle en meurt. J'ai, je pense, ici les deux exemples à ne surtout pas suivre. Alors, ne soyons pas de ceux qui vivent dans le passé, à nous rappeler sans cesse et avec regret de ce que Dieu nous a fait quitter. Entretenons notre joie et notre reconnaissance parce que nous vivons une liberté que nulle Égypte ne pourra nous offrir. Apprenons à compter sur Dieu en toute occasion, à diriger notre regard vers lui, parce que c'est de lui que viendra le secours et nous serons gardés de toute tentation de porter notre attention sur l'Égypte. J'aimerais finir par une simple image. Alors, pourquoi je vous montre un repas qui peine à faire envie? C'est le repas que prennent les Juifs le jour de Pessah. Pessah, c'est la Pâque de l'Ancien Testament. C'est un jour où ils célèbrent la délivrance d'Égypte. Et chaque aliment a une portée symbolique importante, à commencer par le maror. Est-ce que ça va marcher? Le maror. Et l'azré, qui sont deux aliments extrêmement amers. Cette amertume, elle se veut le rappel des souffrances vécues en esclavage en Égypte. À l'origine, le repas comptait également un morceau d'agneau sacrifié au temple qui était mangé avec les herbes amères pour atténuer ce mauvais goût, pour atténuer cette amertume qu'on avait dans la bouche. Et ça, c'est en application d'Exode 12:8. Cette nuit-là, ils mangeront la chair rôtie au feu, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Pour autant, ça, c'était quand le temple était encore là, puisqu'on sacrifiait l'animal au temple. Au moment où le temple a été détruit, les rabbins se sont retrouvés confrontés à une difficulté. Comment mettre encore de la viande de l'agneau sur les tables le jour de la Pâque, alors même qu'il n'y a plus de temple pour sacrifier l'agneau? Alors, ils ont décidé de remplacer la viande par un os d'agneau. C'est pas un morceau d'agneau, un os d'agneau. Pour se rappeler que tant que le temple ne sera pas reconstruit, il ne sera pas possible de regoûter à cette viande sacrifiée. Et là, il y a quelque chose de magnifique qui m'est apparu, c'est qu'au jour de la commémoration de leur sortie d'Égypte, les Juifs restent sur une note amère, sans possibilité d'adoucir ce symbole de leur souffrance. Ils commémorent la souffrance de leurs ancêtres sans avoir l'opportunité de goûter à la joie et à la douceur de la délivrance symbolisée par l'agneau. À l'inverse, si nous aussi nous pouvons connaître des formes d'amertume liées à notre passé, gardons à l'esprit qu'on dispose de l'agneau, l'agneau immolé une fois pour toutes, pour adoucir cet arrière-goût désagréable lié à notre situation antérieure. Cet agneau, c'est Jésus. Il est cet agneau pascal par excellence, qui a le seul le pouvoir d'adoucir toute amertume, qu'elle soit liée à une situation, à une personne, à un péché, voire même à un chemin de délivrance qu'il est parfois difficile de vivre. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te remercie, Père, parce que tu continues à nous ouvrir les yeux, Seigneur, sur des écritures qu'on a peut-être lues, relues, Seigneur, et tu continues à leur donner des éclairages particuliers qui touchent les cœurs, Seigneur, alors merci.